Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Motors, Arnaud Jean Lecroix.
Bienvenue à tous, c'est parti pour Motors, votre dose hebdo de sport méca sur RMC. On est ensemble jusqu'à 14h pour l'heure. Il est 13h04, l'heure d'accueillir Jean Lecroix. Salut Jean-Luc.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Ah ben je vais formidablement bien parce que je me suis levé très tôt ce matin également pour assister à un très beau Grand Prix moto comme d'habitude. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission avec Benoît Boutron.
On en parlera effectivement.
Et puis on a un invité de prestige en
émission. Et un invité de prestige, effectivement, on va y venir au menu. D'abord, le 5e titre de champion du monde de Formule 1 pour le Britannique Lewis Hamilton, vainqueur la semaine dernière du Grand Prix du Mexique. Retour aujourd'hui en détail sur les coulisses de Sacre et puis on va aussi évoquer l'avenir de la Formule 1. Tiens, avec peut-être un nouveau Grand Prix dans les années à venir, pourquoi pas au Vietnam. On en parlera avec toi tout à l'heure, Jean-Luc. Après 13h20, pardon, le rallye donc au menu et la bataille dans une semaine pour le titre de champion du monde WRC. Trois petits points d'écart entre Ogier et Neuville. On sera en direct avec le copilote de Sébastien Ogier, justement invité de prestige tout à l'heure, Julien Ingracia sera avec nous. Et puis donc à 13h40, Radio Paddock avec Benoît Boutron pour revenir notamment sur le Grand Prix de Malaisie Moto. C'est parti pour Motors. Et d'abord le direct de ce début d'après-midi, c'est à Lyon que ça se passe, la 9e journée de Top 14 avec l'avant-dernier match sous les yeux d'Edouard G entre Lyon et le Stade Français. Salut Edouard.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc. À la 33e minute et c'est toujours le Stade Français qui est devant 6-0 désormais puisque Mornstein a rajouté un drop après sa pénalité de la 9e minute, un drop de la 27e des Lyonnais qui tentent des choses, mais voilà, le dernier geste n'est pas là, notamment avec des en avant à l'appel, le dernier en date de Lionel Boxis, alors que les Lyonnais étaient dans un temps fort, pas très loin de la ligne d'essai. Donc du coup on en reste à cet avantage pour le Stade Français. Paris 6-0 ici au Matmut Girland.
Match de la 9e journée de Top 14 de rugby qui se conclura tout à l'heure par le match entre Montpellier et le Racing 92.
RMC Motors.
Lewis Hamilton va être titré, 5 titres de champion du monde, c'est incroyable.
That's how you do it baby, just like I taught you, that's how you do it, just like that. That's how you're supposed to drive.
Dans le rétro, ça te fait sourire.
Oui, ça te fait sourire parce qu'on s'attendait pas à cette voix-là dans la radio, effectivement, pour féliciter Hamilton.
On va accueillir, mais Adrien Trombé de la Dream Team qui est avec nous. Salut Adrien.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc.
Salut Adrien.
Comment ça va Adrien?
Très bien.
Bah écoute, ça va d'autant plus qu'on va revenir justement sur ce 5e titre donc de Lewis Hamilton, 5e titre de champion du monde. On l'avait dit en préambule justement la semaine dernière, juste avant ce Grand Prix du Mexique. Quel duel extraordinaire quand même. Alors peut-être pas entre Vettel et Hamilton, je veux dire sur le palmarès, il y avait 8 titres de champion du monde qui s'affrontaient sur la piste pour en avoir un 9e. C'est donc finalement Lewis Hamilton qui logiquement l'a emporté, en tout cas logiquement au vu de ce qu'on a vu, de ce qu'on avait vu depuis quelques semaines, Jean-Luc.
Écoute, en fait on s'y attendait naturellement depuis le Grand Prix précédent. Numériquement et arithmétiquement, il était capable de le décrocher des Austin. Ça ne s'est pas fait, mais il a fallu attendre le Mexique, comme l'an dernier d'ailleurs. Mais il a mené un beau combat malgré tout, parce qu'effectivement, il n'avait pas la meilleure des monoplaces, et surtout, il avait des problèmes d'utilisation de pneumatiques. Il a démontré, même à travers ce Grand Prix, ou plutôt surtout, puisque c'est lui qui lui permet de décrocher cette 5e couronne dont tu parlais, et de faire de lui l'égal du mythique Juan Manuel Fangio. Et tu vois, j'ai lu beaucoup de chose évidemment cette semaine, beaucoup d'avis de nombreux anciens champions du monde. Tout le monde est pratiquement d'accord pour dire que c'est peut-être sa meilleure saison, et moi je suis assez d'accord avec ça, tout simplement parce que je pense qu'il n'avait pas la meilleure monoplace, en tout cas pas tout au long de la saison, loin s'en faut, et malgré ça il est parvenu à décrocher le titre. Donc ça démontre qu'effectivement, je crois que quand on a, tu sais c'est toujours pareil, quand on assiste à un spectacle formidable de temps en temps, il faut qu'il y ait des gens pour se le rappeler. Et ben moi je veux le rappeler aux auditeurs d'RMC en leur disant, on assiste à un phénomène, Lewis Hamilton est un monument du sport automobile.
Et juste avant d'entendre Adrien justement là-dessus, tu parlais de Fangio, il en a bien conscience, Lewis Hamilton, désormais d'être l'égal de ce mythe de la Formule 1.
Fangio, c'était le parrain. Il était le meilleur, le plus respecté. C'est bizarre de l'égaler. Devenir champion du monde, c'était superbe. L'être 3 fois comme Senna était incroyable. Alors je n'aurais pas pu imaginer en avoir 5. C'est un jour vraiment spécial pour moi.
Bon, reste maintenant à viser pourquoi pas la barre des 7 titres de Michael Schumacher. Ça sera pas forcément chose aisée. Adrien, ce 5e titre pour Lewis Hamilton, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis?
Ben, je crois que comme Jean-Luc le disait, on le vit en ce moment même et je pense que on n'a pas le recul nécessaire. L'histoire est en train vraiment de s'écrire. Il est en train de faire un boulot fantastique et comme le disait une nouvelle fois Jean-Luc, c'est je pense la saison la plus aboutie pour lui parce que c'est probablement la saison où il avait le moins d'avantages en tout cas avec sa voiture. Sur la globalité de l'année, peut-être qu'il avait la meilleure voiture. C'est difficile vraiment de savoir. À un moment donné, Ferrari a été meilleur. À un moment donné, la Mercedes a repris le dessus. Mais en tout cas, sur la globalité de la saison, tout le monde fait des erreurs. Mais là, cette année, Lewis Hamilton n'en a fait aucune, contrairement à Sebastian Vettel. Et c'est vraiment une grande saison en dehors de la voiture. Et dans la voiture, on le sent, on l'a senti vraiment en confiance. Tout au long de l'année, et c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réussir.
Juste pour rappeler quelques chiffres, tu sais, je suis pas adepte de ça, mais quand même, ça fait du bien. 71 victoires en Grand Prix. Ouais. C'est-à-dire qu'il est juste au milieu entre Alain Prost, qui c'était déjà hallucinant, 51 victoires, et Michael Schumacher, 91 victoires. En termes de pôle, c'est très simple, il est tout seul devant. 91 pôle position, 41 meilleurs tours en course.
Enfin, c'est incroyable.
C'est incroyable. Alors, c'est un ogre.
Justement, je parlais de Michael Schumacher, tu remets le couvert avec son nombre de victoires. Victoire assez hallucinant. Est-ce que Lewis Hamilton peut prétendre un jour, pourquoi pas, dépasser Michael Schumacher en nombre de victoires en Grand Prix, en championnat du monde de Formule 1, voire en nombre de couronnes, ou du moins l'égaler? Est-ce que ces sept titres-là sont égalables pour Lewis Hamilton?
Égalable. La réponse est oui, il a 33 ans, il aura 34 début janvier, donc tant qu'il aura envie, tu sais, je crois que avant tout, et Adrien aussi ne me détrompera pas, on est rarement pas d'accord, on est souvent d'accord, parce que c'est vrai que c'est la passion qui le guide, c'est pas tellement l'accumulation de chiffres, et puis on ne continue pas sa carrière en Formule 1 parce qu'on veut égaler ou battre Michael Schumacher. Ça va venir tout seul, s'il reste en Formule qu'il a toujours cette envie, toujours ce talent, et il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, oui, il est capable de faire mieux.
Tu partages, Adrien?
Oui, tout à fait. Et puis, comme le disait Jean-Luc, hein, il est encore très jeune, Lewis Hamilton. On se souviendra du retour de Lewis Hamilton, de Michael Schumacher, oui. À 40 ans. Voilà, il y a encore des années devant Lewis Hamilton, et s'il a l'envie, on ne voit pas pourquoi il n'irait pas chercher ses records. Alors, il s'en cache souvent. Et il dit vraiment faire son boulot course après course et avoir toujours les objectifs, des objectifs individuels singuliers en tête et ne pas y penser. Mais honnêtement, je pense que Lewis Hamilton a envie d'avoir ses records et là il a quand même commencé à en parler après le Grand Prix du Mexique et ça doit être dans un coin de sa tête. Quand même.
Il est honnête quand il dit Lewis Hamilton, je ne suis qu'un maillon de la chaîne finalement de toute cette équipe, c'est vrai ou
très très honnête. Écoute, si tu écoutes l'ensemble de l'interview, de l'entretien justement, il en a accordé plusieurs, mais à quelques moments on voit qu'il a une petite montée il a les larmes aux yeux. Non, je pense que c'est un type qu'il faut absolument créditer d'authenticité, de vérité, d'honnêteté intellectuelle et de respect. Donc oui, il est honnête. Il dit bien sûr, sans moi, ça ne pourrait pas arriver. Il va pas réduire son mérite. Mais effectivement, il suffit qu'il y ait un maillon, le maillon le plus faible de la chaîne, qui soit défaillant pour que le titre ne soit pas là. Non, je crois qu'il est tout à fait honnête.
Alors, on est obligé de parler évidemment du battu, celui sans qui la lutte n'aurait pas été aussi extraordinaire. Un quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, qui a été le premier, évidemment, et on va l'écouter, Sébastien Vettel, l'Allemand, le pilote Ferrari, à saluer Lewis Hamilton.
C'est décevant, bien sûr. Ce n'est pas un jour heureux pour nous. Je ne pense pas que nous avons perdu le titre aujourd'hui. C'était une longue année avec beaucoup de courses et ce n'est jamais facile lorsque vous devez accepter la dure réalité en face. Mais je dois féliciter Lewis. C'est mérité. Il a été le meilleur. Il a conduit parfaitement. Donc il mérite de célébrer son titre. C'est son jour, excepté Max, bien sûr. Mais je pense que Lewis se détache un peu plus.
Voilà, Sébastien Vettel au micro de Luc Avinois. C'était la semaine dernière, donc dimanche dernier, à l'issue de ce Grand Prix du Mexique. Sébastien Vettel, pouvait-il en être autrement? Il a peut-être un petit peu raté quelques virages décisifs dans la saison, à l'image du Grand Prix d'Allemagne justement.
Indubitablement, oui. Et moi, le tournant de la saison, je l'ai répété à l'envi, c'est le Grand Prix d'Allemagne, hein, à Hockenheim. Il a commis plusieurs erreurs. Je crois qu'on peut en comptabiliser 5 pour ce qui le concerne, au moins 2 de son équipe également. Donc ça fait beaucoup dans une saison. Ça explique le résultat. Et puis je crois, tu sais, pareil, pour que un champion dépasse, entre guillemets, sa propre carrière, il faut qu'il ait un adversaire valeureux. Cet adversaire, en l'occurrence, c'est Vettel. Et tu le rappelais, 4 fois champion du monde. Donc il s'agissait de le battre dans dans tous les sens du terme et de dépasser son palmarès. Ça a été fait et bien fait. Donc je crois que l'opposition, tout le monde s'en souvient, avec la même voiture au sein de la même écurie, donc avec Nico Rosberg, avait été fantastique, hein, il y a quelques saisons de cela. Mais il faut un adversaire valeureux, et là aussi, qu'aurait été Ayrton Senna sans Alain Prost, oui. Qu'aurait été Alain Prost sans Ayrton Senna.
Ça peut promettre, je sais pas moi, un duel encore formidable la saison prochaine, par exemple, Adrien, entre Vettel et Hamilton, peut-être même encore plus serré.
Probablement, et puis peut-être avec Charles Leclerc aussi.
Non, mais oui.
Ce sera une nouvelle saison avec des monoplaces qui seront sensiblement différentes. En tout cas, bon, une Ferrari et une Mercedes resteront performantes ces voitures, mais on sait quand même que toutes les saisons sont nouvelles et il peut y avoir des rebondissements en Formule 1. C'est un sport mécanique, donc il faut tous les deux qu'ils aient la voiture capable de se battre pour gagner des courses, pour pouvoir se battre ensemble. Maintenant, pour revenir sur cette saison, Sébastien Vettel, ouais, il a été dominé à partir de la moitié de la saison, en tout cas d'un point de vue psychologique, et en fait, bah, c'est des opportunités manquées pour lui qui ont fait que Lewis Hamilton a pris le large au championnat. On se souviendra aussi de Bakou, la tentative de Sébastien Vettel de dépassement complètement ratée, Hockenheim, sortir dans un virage où il sait très bien que voilà, l'adhérence est précaire et où il a la plus grande expérience sur ce circuit puisque c'est chez lui devant ses supporters. Ça a montré que voilà, Lewis Hamilton a mis une telle pression tout au long de l'année sur Sébastien Vettel, tout quadruple champion du monde qu'il est, il l'a poussé à la faute et ça faire ressortir la performance encore plus grande de Lewis Hamilton.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur RMC, c'est Motors. Il est 13h15, on est ensemble jusqu'à 14h. On revient notamment sur le cinquième titre de Lewis Hamilton, cinquième titre de champion du monde de Formule 1 avec la Dream Team, Jean-Luc Roy et Adrien Tambay qui sont à mes côtés. Ce cinquième titre, il a presque éclipsé la cinquième victoire aussi de Verstappen la semaine dernière au Mexique, hein, justement.
Oui, juste un tout petit mot si tu veux. Faut rappeler que son premier titre avait été acquis chez McLaren, donc c'est important. Et ensuite, il est parti chez Mercedes à la surprise générale. Et tout le monde avait dit, et je sais que j'en faisais partie, je ne renie rien, on s'était dit, tiens, c'est étonnant, il prend un risque, etc. Ben, c'était un risque assumé, puis je crois qu'il faut dire aussi que voilà, les grands pilotes ont la capacité à fédérer une équipe autour d'eux. Tu parlais effectivement de cette victoire.
Oui, on parle de Verstappen, on en reparle juste dans un instant, parce que c'est d'abord la mi-temps à Lyon, au Matmut Gerland, sous les yeux d'Edouard G, ce match de top 14 entre Lyon et le Stade français.
Et finalement, les 30 acteurs se quittent pour la pause sur un score de parité 6-6, puisque la fin de cette première mi-temps, si la première période, la première partie de cette mi-temps avait été totalement parisienne, eh bien la fin a été plutôt lyonnaise et Lionel Boxis a converti deux pénalités, 34e et 38e minute, mais les Lyonnais auraient pu faire mieux parce que dans les actions qui précédaient ces pénalités, eh bien il y a eu des en avant vraiment très très près de la ligne, donc les Lyonnais auraient pu aller à l'essai, ils se sont contentés de pénalités, donc on en reste à 6 partout à la mi-temps dans cette première acte de ce loup Stade français, très équilibré donc.
Match de la 9e journée du top 14 de rugby. À tout à l'heure, Edouard, pour la deuxième mi-temps. Et puis, on vous rappelle que, évidemment, vous ne raterez rien à partir de 16h50 du match de clôture de cette 9e journée. Choc sur le papier, en tout cas, entre Montpellier et le Racing 92. On revient à nos moutons, ou plutôt à nos Formule 1. Jean-Luc, et donc à cette victoire de Verstappen la semaine dernière, presque totalement éclipsée d'ailleurs, hein, par le cinquième titre de Lewis Hamilton.
Et c'est logique, hein, quand il y a effectivement ce genre de d'issue, et en plus que, effectivement, on entre dans l'histoire directement avec un cinquième titre, c'est normal, la bataille pour le titre de champion du monde prend le pas, mais elle est bien là, cette victoire, et il l'a acquise, Max Verstappen, d'une manière très impressionnante, là aussi, il n'avait pas signé la pole, devancé de très très peu par son équipier Ricardo, une nouvelle fois accablé par les problèmes mécaniques, mais Verstappen avait fait le boulot, il a mené un grand prix de patron, là vraiment, je crois qu'on en reparlera, parce que tout le monde le sait, Verstappen, il a le talent et la capacité, lui aussi, pour devenir champion du monde un jour. Faut bien retenir ça, il est tout jeune.
Hein. Oui, il est tout jeune, il a remporté d'ailleurs sa première victoire à un âge défiant toute concurrence, j'ai envie de dire, Max Verstappen.
Ah ben c'était le plus jeune, carrément, il a justement battu Vettel et battu tout le monde, Vettel qui était déjà précoce. On le rappelle, il est né le 3 juillet 1987, donc il a 21 ans, il a déjà 5 victoires en Grand Prix. Ce qui lui manque, c'est la pole, effectivement, il court après. Mais bon, on va voir l'affrontement là aussi l'an prochain, si la Red Bull motorisée par Honda, faut-il le rappeler, est au niveau avec un certain Pierre Gasly, là aussi on suivra ça de très très près. Adrien parlait à juste titre de l'affrontement Vettel-Leclerc chez Ferrari, mais je peux te dire que Verstappen-Gasly, ça va valoir son pesant de cacahuètes.
Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Tu partages, j'imagine, cet avis. Adrien, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir de Max Verstappen? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir en Formule 1? C'est lui l'avenir de la Formule 1, justement.
Ben oui, je crois que, en tout cas, cette course ne peut que nous mettre l'eau à la bouche, tout simplement parce qu'on comprend que la Red Bull est très performante en châssis et aérodynamiquement, et que c'est une très bonne voiture, que quand la différence moteur avec la Ferrari et la Mercedes est atténuée, en l'occurrence au Mexique avec l'altitude, c'est probablement un des effets de cette altitude, probablement que le moteur Ferrari et le moteur Mercedes au Mexique n'a pas pu avoir autant d'avantages, et c'est donc là que les Red Bull ont su tirer leur épingle du jeu. Et quand on connaît l'attaque, le talent pur de Max Verstappen, on connaît aussi le talent de Pierre Gasly qui va le rejoindre la saison prochaine. L'interrogation, c'est le moteur Honda qui équipera ces monoplaces là, mais bon, on connaît aussi Red Bull et on sait que les choix sont jamais faits au hasard, et je leur fais confiance là-dessus. Je pense qu'ils ont eu des garanties de la part de Honda. Et que ça se passera très bien l'année prochaine. Donc ça va être très excitant, et je pense une très belle saison 2019 à venir.
Et la belle 10e place de Pierre Gasly, justement, avec sa modeste Toro Rosso à moteur Honda, en atteste pour appuyer ce que dit Adrien. Il est parti dernier, il a terminé dans les points.
Et ça veut dire qu'il a super bien piloté, que les différences entre les voitures ont aussi été atténuées, et qu'on voit là,
pour les raisons
c'est effectivement
Adrien.
Un très très grand pilote. On rappelle que l'altitude, effectivement, Mexico est très en altitude, et c'est un petit peu comme toi quand tu vas faire de la rondo en montagne, mais tu t'es tout un petit peu à 2200 mètres d'altitude. Non mais voilà, au moins c'est concret.
Le châssis est meilleur que le moteur. Tu vois, voilà. C'est exactement, la comparaison est parfaite.
Exactement. Les Français, justement, quel bilan on peut tirer de la saison des Français? J'ai envie de dire quand même assez... Elle est presque décevant parce qu'on attendait peut-être un petit podium de la part de nos Français. Il n'y a pas eu tout ça, même s'il y a eu des belles choses à mettre, notamment au crédit de Pierre Gasly.
Tu connais le principe de la coupe à moitié pleine et à moitié vide. Je vais toujours regarder le côté à moitié pleine, d'abord par optimisme. Eh ben écoute, on a fait ce qu'on a pu avec le matériel dont on disposait, effectivement. Alors, on en parlait il y a un instant. Ben Gasly, oui, il a totalisé 28 points. Il est 14e pour le moment au championnat. Bon, le mieux classé, c'est Ocon, 49 points, sur l'avenir duquel on se pose des questions, et ça c'est la vraie interrogation. Romain, il a eu deux saisons en une, hein, la première partie catastrophique, et ensuite il a très bien redressé la barre, donc maintenant il totalise 31 points, et puis Charles Leclerc, on le garde pour la bonne bouche, et encore une fois, on va pas le redire à chaque fois, le franco-monégasque, ou appelle-le comme tu veux, moi je dis qu'il fait partie de l'écurie. Alors il a fait ce qu'il a pu avec le matériel dont il dispose, mais 28 points, et puis un talent extraordinaire que personne ne conteste. Maintenant il va falloir faire l'intégration avec la Scuderia Ferrari, ça c'est notre paire de manches.
Est-ce que tu as eu des échos, toi, là-dessus, Adrien?
En tout cas, non. Je suis sûr que Charles est la bonne personne pour aller épauler Sébastien Vettel, et je pense qu'il mettra la pression assez rapidement. Il a les dents qui rayent le parquet, Charles, et puis il a tout bien placé au bon endroit pour être...
Je vois ce que tu veux dire.
Pour être un futur champion du monde, et je crois que si Ferrari lui fait confiance, c'est qu'il y a des raisons. C'est pareil pour Pierre Gasly chez Red Bull, et encore une fois, c'est la première fois depuis un bon moment. Vous savez, on parle souvent de pourquoi on n'a pas un Français sur le podium, pourquoi on n'a pas un Français qui gagne des courses, mais je crois que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on aura enfin un Français dans une voiture capable d'aller gagner des courses. Pourquoi? Parce qu'elle en a gagné une là, juste au dernier Grand Prix, et ça sera probablement le cas l'année prochaine, donc c'est ça qui va être très intéressant à suivre pour nous Français.
Alors le temps passe très vite, je voudrais quand même qu'on en vienne à cette information, enfin est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est de l'intox, et ce peut-être nouveau grand prix au calendrier du championnat du monde de Formule 1. A priori, c'est pas pour tout de suite parce qu'il faudrait construire le circuit. Ça se passerait à Hanoï au Vietnam.
Écoute, on sort ça du chapeau du côté de Liberty Media. C'est vrai qu'on discute avec beaucoup de monde. On avait parlé un moment d'un Grand Prix également en Hollande, un retour avec Verstappen, évidemment, un Grand Prix à Miami. L'idée est un peu compliquée. C'est normal qu'on cherche de nouvelles pistes, encore qu'il y a déjà 21 Grand Prix au calendrier. Il faudra en sortir pour en faire entrer d'autres. Je crois qu'il y a un effet d'annonce quand même là-dessus, parce que il y a quand même plusieurs incertitudes. Il faut construire totalement le circuit, et le régime politique là-bas a dit qu'il fallait des capitaux privés pour le financer. Donc je pense que c'est pas résolu. Maintenant, effectivement, l'effet d'annonce, ça fait aussi partie de la communication.
Un Grand Prix sous les tropiques, un de plus, pourquoi pas.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Motors continue jusqu'à 14h. Il est 13h27. Bon appétit si vous êtes, si vous passez à table ou si vous y êtes d'ailleurs. Jean-Luc Roy, lui, a déjà depuis bien longtemps mangé son sandwich.
Même pas. Non, parce que je suis assoiffé justement. Je suis avide de dévorer l'information.
De dévorer l'info sur les sports méca, évidemment, comme tous les dimanches à cette heure-ci. Et Dieu sait que cette info sur les sports méca, elle est dense encore cette semaine avec. Ouais. Notamment, on y vient tout de suite, le championnat du monde WRC.
RMC Motors.
190, 150 mètres, droite
120.
Le briefing.
Ah oui, le briefing à une semaine désormais du rallye d'Australie, décisif dans la bataille pour le titre de champion du monde WRC. Je te donne le topo, Jean-Luc. 3 points seulement séparent au classement général du championnat du monde des pilotes Sébastien Ogier et le Belge Thierry Neuville. Je te laisse accueillir notre invité justement pour en parler. C'est le coéquipier de Sébastien, le copilote pardon de Sébastien Ogier.
Et oui, c'est un grand plaisir que d'accueillir sur l'antenne de RMC dans Motors Julien Ingracia. Salut Julien.
Salut Jean-Luc. Salut à tous.
Écoute, je te remercie beaucoup de prendre un peu de temps. Je sais que évidemment c'est un moment où tu dois rassembler tes forces, te concentrer. Tiens d'ailleurs, question toute bête, que fais-tu à quelques jours de ton envol vers l'Australie?
Bah là, à la seconde près, je suis en train de faire mes notes, justement, tu vois. Donc j'ai mes roadbooks de l'Australie et mes cahiers de notes quoi, des années passées. Puis je suis en train de réassembler le puzzle, on va dire, pour l'édition à venir. Et comme ça, bah, d'ici ce soir, je serai capable de donner un résumé très détaillé quoi, à Seb de ce qui nous attend en Australie. Alors évidemment, on savait déjà, je lui avais déjà fait un topo sur globalement comment serait le parcours. Mais là, on va vraiment dans le détail, virage par virage. Et comme ça, bah, sur le long trajet qui nous mène là-bas, il va être capable de regarder un peu les vidéos de l'an passé, d'analyser un peu les portions communes et puis aussi bah, de commencer à regarder les nouvelles portions quoi, sur des vidéos que l'organisateur aurait pu nous faire passer.
Alors moi j'insiste toujours là-dessus et tu le sais depuis toujours sur RMC, un équipage de rallye c'est un équipage, c'est une équipe, c'est un couple même qui passe beaucoup de temps dans l'année ensemble et le résultat, on parle évidemment beaucoup du pilote, ce qui est normal, je sais que tu n'en conçois aucune frustration Julien, mais ça se fait à deux, hein, évidemment. D'abord vous prenez évidemment les mêmes risques et puis surtout ce travail en amont dont tu viens de parler, il est tellement important. Alors tiens, on va revenir sur le dernier rallye parce que si on se parle évidemment aujourd'hui c'est de toute manière parce que vous étiez en bataille pour le titre, mais vous avez réussi à inverser la vapeur et à reprendre le commandement du championnat du monde. Et je vais être un peu brutal, moi je m'y attendais pas forcément. Est-ce que c'est une bonne idée de partir devant le premier jour en Australie, tu me vois venir?
Une bonne idée sur le papier, non, parce que bah voilà quoi, pour ceux qui nous rejoignent le rallye, c'est vrai qu'on va parcourir des terrains sur l'asphalte mouillé ou sec, on va être sur des pistes sèches au Mexique en altitude, on va être sur des pistes boueuses en Angleterre, et globalement bah, quand on est premier sur une piste sèche sur terre, bah, on va avoir une couche de gravette, de poussière quoi, qui va nous enlever énormément de motricité. On va nettoyer littéralement quoi la trace pour les concurrents derrière nous, et évidemment bah, tous les opposants derrière nous bah, vont bénéficier de cette trace là avoir un meilleur grip. Et donc ouais, sur le papier c'est pas top d'être premier en Australie. Après ben on a toujours été, enfin on s'est dit allez c'est maintenant il faut plus réfléchir,
il y a un moment où ça dure, hein, c'est ça.
On a déjà eu pas mal de déconvenus cette année, on a fait quelques erreurs de notre côté, hein. on l'admet quoi, notamment en Turquie où on s'est posé bêtement entre guillemets, puis après ben on a eu d'autres événements quoi pendant la saison, un rallye de Suède où on s'est bagarré comme des diables, mais on était justement premier sur la route, il y avait une couche de neige fraîche, on a pu finir que 10e derrière tout le monde. Au Mexique, on nous a retiré 5 points quoi suite d'un épisode un peu compliqué avec la FIA quoi sur des histoires de chicane. Donc on s'est dit voilà quoi, les points on en a suffisamment perdu. Maintenant, on sait faire de toute manière, on a l'expérience quoi, pour être premier sur la route, on va y aller. Et puis après, bon, bah, c'est vrai qu'on était juste un point derrière Thierry Neuville et qu'on lui laissait ouvrir la route. On sait qu'il n'est pas très très fort à cet exercice-là. Ça aurait pu être une bonne chose aussi, mais là, on y va avec la tête droite et le torse bombé, on va dire.
Oui, et puis de toute façon, c'est difficile quand même de se museler hein, en termes de performance. Il aurait fallu que vous choisissiez, et quand même dans le feu de l'action, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Hein. C'est un petit peu ça la légende, évidemment. Alors, je le répète, Arnaud l'a dit tout à l'heure, 204 points pour vous et 201 pour Thierry Neuville, à laquelle, et tu sais pour quelle raison j'associe évidemment Nicolas Gilsoul. Est-ce que c'est un duel de copilote aussi? Est-ce que c'est un duel de coéquipier? Quel type de rapport tu entretiens avec Nicolas Gilsoul et comment on se parle entre copilotes?
Alors très clairement, c'est vrai que entre copilotes, on a toujours, on va dire, du respect, et même entre équipages de toute manière, il y a pas d'histoire en double RT, c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. Entre deux spéciales, on va être capable de tchatcher les uns les autres, d'essayer le baquet de l'un ou de l'autre. Enfin, on a des moments de partage, on va dire. Par contre, on sait évidemment que c'est la guerre, et notamment à ce moment-là de la saison. Et c'est vrai que là, du coup, ben, j'ai le couteau entre les dents, et copilote, pas copilote, là, on fait plus le détail, et ça va être la guerre, quoi. Donc oui, effectivement, on se fait pas de coups tordus, mais par contre, on se rend pas de cadeaux non plus, évidemment.
Bah, c'est clair.
Nicolas, c'est quelqu'un que je côtoie depuis quelques années, effectivement, et il a une approche très très pragmatique et très sérieuse du rallye, quoi. On l'a pas souvent vu faire d'erreurs, etc. Mais je sais qu'en début de saison, quoi, effectivement, quoi, gentiment et toujours avec le sourire, et c'est ça qui est chouette malgré tout, c'est qu'on peut être viril mais correct, hein, c'est comme ça qu'on dit, quoi. J'avais lancé 2-3 petites piques, quoi, au moment où effectivement, quoi, après le rallye de Suède, il déclarait être très très content, quoi, d'ouvrir la route au Mexique. Bah, je lui avais offert une petite balayette, quoi, à l'occasion du rallye du Mexique, et en lui disant, bah vas-y, amuse-toi bien, quoi. Et effectivement,
fais-nous le boulot.
Viril mais correct. Bah tiens, ça tombe bien, oui. Parce que Julien Ingracia, donc en direct avec nous dans Motors sur RMC, le copilote de Sébastien Ogier, voilà, pour l'instant en lutte pour le championnat du monde des rallyes, est avec nous. Donc Julien Gracier en direct. On va aller faire un petit tour au rugby, justement, à viril mais correct. Ce match, Edouard G, on se pose la question, Lyon-Paris.
Oui, 6 partout, c'est viril, correct. Et du côté de Lyon, on a eu quelques situations dans cette entame de deuxième période qu'on a pris à bras-le-corps, mais toujours cette indiscipline ou ce manque de précision, notamment là, par exemple, sur une action qui était pas très loin de la ligne, une poussée mal maîtrisé en mêlée, et du coup les Parisiens ont pu se dégager. On a eu des en avant en première période qui ont empêché des essais, un essai au moins du côté de Lyon. Là, il y aurait pu y avoir une solution et une situation dangereuse, mais donc on en reste à la 46e à ce score de parité, 6 partout.
Merci Edouard, évidemment on revient te voir dès qu'il se passe quelque chose entre Lyon et Paris, match de la 9e journée du top 14 de rugby. Je vous rappelle que tout à l'heure à 16h50 il y aura le coup d'envoi du match de clôture, ce sera entre Montpellier et le Racing 92. 13h34, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motor sur RMC. On est en direct avec Julien Ingracia, le copilote de Sébastien Ogier. On parle évidemment du WRC, le championnat du monde des rallyes, et de ce rallye à venir en Australie. Moi, je voudrais faire un petit retour en arrière de quelques jours. Comment vous avez vécu, Julien Ingracia, la victoire de Sébastien Loeb la semaine dernière?
Alors, la victoire de Seb Loeb et Daniel Elena, très clairement, quoi, on va dire que j'avais un bon sourire, parce que ça faisait plaisir de les revoir sur le circuit. C'était déjà venu 2 fois cette année où ils n'avaient pas brillé entre guillemets, quoi, et puis là ils ont su prendre leur revanche. Donc à titre personnel amical, quoi, j'étais vraiment content de les voir. Et puis après, il faut pas oublier que l'an prochain on sera chez Citroën.
Et voilà,
donc,
on va y venir.
Très content de voir que la voiture bien manié, c'est fonctionné. Après, j'étais pas très content de la prestation. J'aurais voulu qu'on finisse premier, et on avait les moyens de le faire, quoi. Bon, voilà, c'est passé différemment. On n'a pas eu des infos météo assez affûtées.
Voilà, on va rebondir justement là-dessus, sans entrer trop dans le détail encore, mais on sait bien que c'est un choix de pneus, qui a été déterminant, Julien. Mm-hmm. C'est ça que tu veux dire?
Ouais, effectivement, on est chez M Sport, quoi. On a encore la plus petite des équipes du WRC.
Et oui.
Et donc, par moment, malgré tout ce qu'on a essayé de mettre en place, Seb et moi, malgré toute la bonne volonté de l'équipe, il nous a manqué quand même une certaine expertise dans ce domaine-là, météo. On s'est planté de pneus, pour ainsi dire, tout le week-end. C'est pas habituel chez Seb Ogier, quoi, de faire les mauvais choix de pneus, et on a payé, quoi, assez cher, puisque il y a 7 points qui nous échappent du fait que Loeb et Elena finissent premiers. Mais voilà, maintenant ça fait partie du passé, et puis à nous d'être encore plus forts en Australie.
Alors justement, l'Australie, on y vient, c'est un rallye sur terre, donc effectivement, où vous allez normalement balayer le premier jour, après on remet les compteurs à zéro. Une épreuve, la dernière, on peut pas rêver mieux dans un championnat, évidemment, qu'une issue comme celle-là, mais j'oserais dire, Julien, la pression, elle est sur vous, bien sûr, pour essayer de décrocher un autre titre de champion du monde de rang. Vous en êtes déjà à 5, avec 2 équipes, mais elle est peut-être plus sur Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Eux, ils n'ont jamais été champions du monde.
Ouais, effectivement, quoi, c'est ce que j'ai entendu un peu autour de moi. Et nous, on a la quand tu finis premier,
ouais,
une première fois,
tu sais que tu peux le faire déjà.
Il est hors de question, quoi, de finir second ou troisième ou à une autre place que premier, quoi. Et finalement, on a énormément de pression tout au long de l'année parce que ce titre à défendre chaque saison, voilà, il y a vraiment plus le choix, quoi. Tandis que quand on l'a pas encore gagné, entre guillemets, ouais, on se laisse l'opportunité de peut-être rater le coche cette fois-ci. Donc ouais, je suis d'accord. Je dirais que globalement, c'est toujours pareil, quoi. Moi, virage après virage, il y a tellement d'erreurs possibles quand on rallye, quoi. Les conditions météo, le terrain qui change, ce sont des longues semaines, etc. Donc il faut surtout pas être prétentieux ou arrogant. Par contre, effectivement, qu'on compte bien laisser la pression sur les épaules de Neuville et Gilles Soule, et nous, on va profiter de notre expérience, quoi, dans ces conditions-là, quoi, à forts enjeux. Ouvrir la route, on a déjà fait ça pendant des années et des
bien
années,
sûr,
donc on va tout mettre en œuvre, quoi. Ça va se jouer dans le détail, hein, ça va pas jouer à grand chose. Et puis vous sur RMC, et puis les spectateurs, téléspectateurs, quoi, il va falloir mettre le réveil un peu tôt, quoi, le dimanche matin,
mais on le fera
dans 15 jours, sortir la bouteille de champagne, mettez la sur la table basse, et puis on verra bien si ça va faire.
Absolument, et puis on essaiera de t'avoir, hein, si tu veux bien, Julien, juste après ce dernier rallye, quoi qu'il arrive. Alors deux questions, enfin j'en aurais 10 à te poser, mais déjà deux. La première, je vais rebondir sur la question d'Arnaud il y a un instant, avec la victoire de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Vous allez peut-être les rejoindre, en tout cas vous allez chez Citroën pour un programme à plein temps, ça c'est sûr. Je te pose franchement la question, tu sais, moi j'ai pas l'habitude de m'emberlificoter dans des détours. S'ils viennent comme ça faire le joker un petit peu de temps en temps, est-ce que c'est pas finalement, je vais oser dire, gênant pour vous qui allez évidemment jouer le titre?
Alors toi tu poses les questions franchement,
c'est une vraie question.
À moi de répondre franchement aussi, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Nous en bien difficulté, quoi. Je serais très content, quoi, de me bagarrer contre cet équipage-là.
Mais si vous les battez, c'est ça.
Non, c'est pas.
Non, je rigole.
C'est le sport, de son coin. Ouais. Effectivement, s'ils nous battent dans la même voiture, à armes égales, avec les mêmes infos, avec la. Écoute, c'est juste du sport, et tant mieux, quoi, pour tout le monde. Par contre, effectivement, quoi, l'an prochain, on a été embauché chez Citroën pour gagner un championnat. Donc, il va falloir réfléchir aussi team, il va falloir réfléchir équipe, et on a affaire à des écuries, Toyota, Hyundai, et puis aussi M Sport l'an prochain qui sera toujours là, qui sont affûtés, donc il faudra pas laisser partir des points bêtement. Donc effectivement, quoi, après il y aura une approche globale au niveau de l'équipe pour savoir comment on veut gagner ce championnat là.
Alors, autre question franche aussi, comment il est Sébastien Ogier cette fois sous la pression, plus tendu que jamais, finalement pas plus que ça, vous l'avez déjà fait, on l'a dit, dans quel état d'esprit il est là maintenant?
Alors si on dit aujourd'hui dimanche, il est très content d'être avec son fils et sa femme, ça c'est sûr et certain,
oui.
Pour une fois qu'on a un week-end de libre. Après, blague mise à part, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment pas confondre les mots qui sont dans ma bouche, c'est ni d'arrogance, ni de ni être trop sûr de soi, mais je pense qu'on est assez serein et déterminé, ça c'est évident. On va aller chercher tous les détails, on va avoir la niaque dès le premier virage, donc je pense que c'est une espèce de force tranquille, on va dire ça.
D'accord,
comme ça.
D'accord. Comme on l'évoquait tout à l'heure, vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, vous savez ce que c'est, y compris ouvrir la piste, y compris sur le dernier rallye, y compris avec le titre en jeu. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Parle-moi aussi du terrain en Australie. En quoi est-il différent peut-être des autres? Quelle particularité, quel piège faut-il éviter?
Alors, l'Australie, donc c'est un terrain en petit gravier blanc. Cette année, on a plus un parcours, quoi, un peu plus centré dans les forêts, dans la jungle, un peu australienne. Le piège, ça peut être si justement il se met à pleuvoir, cette terre-là qui est glissante parce que ces petits gravillons roulent sous le pneu, peut se transformer en argile. Et là, c'est une patinoire. T'as plus de son, plus d'image.
Ouais.
D'un coup, t'as la voiture qui décroche. T'as pas compris. T'as pas réussi à lire le grip au sol. Et puis là, dans ces conditions-là, on a vu l'expérience en 2011 où on se bagarrait à l'époque encore contre Loeb chez Citroën, où lui était sorti de la route une spéciale avant, et nous on était en tête du rallye, et puis sur une espèce de plaque de verglas, là, on peut littéralement dire ça comme ça, on est allé s'encastrer dans un arbre, et puis le rallye était fini pour nous aussi, quoi. Donc non, ça peut être très piégeux. C'est un rallye relativement compact, donc ça c'est bien, il n'y a pas de grands routiers, quoi, c'est des journées relativement courtes, mais Mais bah voilà, on est au bout du monde, il y a un peu tout qui est chamboulé, c'est le décalage horaire évidemment qui est plus important qu'ailleurs, quoi. Donc ouais, il faut arriver en forme là-bas.
Alors deux questions, ça va être malheureusement les deux dernières, tu sais que ça passe très vite et c'est toujours un plaisir de
enfin là, Jean-Luc, tu l'auras avant quand même. Hein,
oui, ah ben là c'est bien. Non, c'est bien.
On n'est pas avec n'importe qui quand même.
Alors la première, puisque Julien l'a évoqué tout à l'heure, les renseignements fournis sur le terrain, tu le disais. Alors vous avez les recos, mais on le sait à vitesse limitée et avec je crois deux ou trois passages maxi. Ouais, donc c'est vraiment très peu. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, j'ose le dire, parce que compte tenu des vitesses, vous avez la capacité de vous projeter?
Et ben voilà, c'est ça la difficulté du rallye, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de simulateur, il n'y a pas de, on peut jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de simulateur, il n'y a pas d'école de rallye à proprement parler. C'est l'expérience qui fait vraiment tout et les reconnaissances. Donc pour faire bref, donc ce sont deux passages à vitesse limitée contrôlés par GPS le mardi et le mercredi, où on va prendre les notes avec ça. Donc là en l'occurrence beaucoup de notes nouvelles sur des cahiers neufs puisqu'il y a des spéciales nouvelles. On a un système d'angle au volant, de distance, de bosser, pas bosser, de revêtement, corde, pas corde, tout ce langage là il faut le mettre en œuvre. Et à 70 km/h, bah réussir à anticiper effectivement quoi le jour de la course où on va arriver là-dedans peut-être à 180 à l'heure, comment le jump ou cette compression, est-ce que ça va kicker, est-ce qu'on va à l'arrière quoi qui va rebondir, est-ce qu'on va avoir du grip, est-ce que donc tout ça effectivement quoi, il faut être hyper concentré pendant les reconnaissances parce qu'il y a 50% du boulot du rallye qui fait à ce moment-là.
Allez, ma dernière question, c'est promis malheureusement, puis on va te laisser te replonger dans tes notes, mais ça t'aura fait une petite petit intermède finalement, c'est peut-être pas plus mal avant.
Ouais, on reste dans le sujet quand même.
Ouais, avant d'en aller. Oui, t'as raison. Ce sont les ouvreurs parce qu'on en parle peu. Tu parlais des infos, effectivement, de quelles infos allez-vous disposer, notamment en fonction de la météo ou des changements du terrain en Australie?
Alors en Australie, c'est un rallye terre, donc on n'a pas le droit aux ouvreurs, c'est uniquement sur les rallyes asphalte. Par contre, effectivement, chaque équipe dispose d'hommes météo, on les appelle comme ça, quoi. Donc ce sont des petits gars qu'on dispose dans les spéciales et qui vont nous donner les conditions de course. Alors entre les deux passages, est-ce que le terrain s'est creusé ou pas, est-ce qu'il y a des lignes quoi de 10-15 cm sur les zones de freinage ou dans les virages pour relever la hauteur de caisse quoi, l'assistance de midi. Ouais. Est-ce que il y a un micro orage quoi qui s'est développé et, est-ce qu'il va falloir assouplir la caisse quoi parce que le terrain est détrempé. Ils vont aussi peut-être regarder un peu l'effet de course, est-ce qu'ils voient passer un concurrent avec un problème, etc. Donc on a ce retour-là d'information qui est à peu près toutes les 30 minutes, sauf en cas d'imprévu d'urgence.
D'accord.
Ils sont en contact avec le team. Après on a quelqu'un au niveau météo quoi qui nous donne un avis météo quoi sur la boucle à venir, et ça c'est hyper important aussi quoi parce qu'on choisit des pneus quoi pour toute une matinée pour 4 ou 5 heures de course. Et puis effectivement on parlait des ouvreurs, donc ça c'était en Espagne sur la rallye asphalte. Ce sont des gens qui passent avec une copie de mes notes 2 heures avant nous dans les spéciales, toujours pareil à vitesse limitée, qui virage par virage vont faire
des
corrections de dernier moment, et notamment quoi au rallye Monte Carlo où il y a la glace, la neige, le sec, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est encore autre chose. Génial, merci beaucoup Julien Gracia d'avoir été avec nous dans Motoche aujourd'hui. Je vais te dire un dernier mot et tu ne me répondras pas, c'est grossier mais Vincent le dit tout le temps, merde.
Tu vois, jamais merci.
Voilà, Julien Gracia, donc le coéquipier, le copilote, je vais y arriver, de Sébastien Ogier, évidemment, qui disputera la semaine prochaine le rallye d'Australie décisif dans la course au championnat du monde WRC. Ce titre de champion du monde qui tend les bras peut-être à cet équipage. Enfin, il faudra quand même se défaire d'un équipage belge avec notamment Thierry Neuville. D'ici là, dans un quart d'heure, le départ de la Route du Rhum, 11e édition de la plus célèbre des Transats en solitaire. On sera avec Christophe Sessieux et toute l'équipe de l'Intégral Sport dans quelques petites secondes. Et nous, on continue dans Motors dans un instant avec Jean-Luc, avec Benoît Boutron. Radio Paddock, les résultats du Grand Prix Moto de Malaisie. À tout de suite sur RMC 13h46.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors, Arnaud Souk, Jean-Luc Roy.
La dernière ligne droite de Motors, il est 13h48. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. Jean-Luc Roy, toujours à mes côtés. dans quelques minutes, le départ de la Route du Rhum. Ça, c'est des Formule 1, mais des Formule 1 des mers. On sera en direct, évidemment, de Bretagne. Le départ de la 11e édition de la plus célèbre, des Transats en solitaire, la Route du Rhum. Dans quelques petites minutes, à 14h, tout pile et en direct dans l'Intégral Sport sur RMC. D'ici là, c'est l'heure de Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you. Radio Paddock.
Et c'est la voix de Radio Paddock qui est avec nous, Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc.
Salut Benoît.
Salut à tous.
Pour revenir, je vous en prie, sur
évidemment.
Notamment le Grand Prix de Malaisie Moto.
On est un peu triste, c'est l'avant-dernier Grand Prix.
Bah oui.
Eh oui, mais oui. Bon, l'avantage c'est que c'est le dernier qui est décalé, puisque ça s'est déroulé très tôt ce matin, c'était à 6h du matin. Le dernier Grand Prix sera à Valence dans 15 jours. Mais il y a eu du spectacle ce matin, Jean-Luc, en Malaisie, avec cette belle victoire du champion incontesté, Marc Marquez. Voilà, encore une fois, il est parti 7e sur la grille. Il avait été pénalisé hier alors qu'il avait réalisé la pole. Zarco en a profité puisque du coup il est parti premier sur cette grille de départ, mais Marquez a réussi à s'imposer. Je vous donne le classement, après on va détailler un petit peu ce qui s'est passé dans la course. Marquez termine premier, Alex Rins deuxième, Zarco troisième. Événement puisqu'on l'avait plus vu sur un podium depuis le Grand Prix de Jerez en Espagne début mai. Et après il faut descendre, on voit Vinales qui est quatrième, Pedrosa cinquième, Dovizioso sixième. Le grand perdant, on va pas se mentir, de la matinée, c'est Valentino Rossi. Il a longtemps mené ce Grand Prix, il termine 18e à cause d'une chute. Il a cédé, Jean-Luc, sous la pression de Marc Marquez.
Oui, écoute, c'est le patron. Là, je crois que c'est pareil. Tu vois, on parlait de Lewis Hamilton tout à l'heure avec Arnaud, avec Adrien. Bah, Marc Marquez, c'est le patron actuel.
Ouais.
Quand on pense qu'il a 25 ans, donc là, il avait décroché sa 80e pole, puisque tu l'as rappelé, il a été pénalisé parce qu'il a, à juste titre d'ailleurs, mais il l'a pas fait exprès, voilà, il avait gêné un autre pilote qui était en train de faire son tour. Il s'est retourné d'un côté, il arrivait de l'autre, si tu préfères. Donc, il l'a reconnu. Donc, il est parti seulement 7e sur la grille. Il a pris un départ canon. Il s'est retrouvé 4e très rapidement. On évoquait Johan Zarco, tu l'as dit, il s'est retrouvé de fait en pole. Lui, il prend un mauvais départ dans les premiers mètres et il fait un freinage d'enfer, ce qui lui ressemble pas non plus, mais il le fait. Il se remet deuxième. Derrière, on va pas raconter tour par tour, mais on pourrait. Ce Grand Prix qui a été phénoménal. Alors, Rossi exerce une belle domination, pas de problème. Seulement voilà, à partir du moment où Marquez est deuxième, bah, il se met à grignoter l'avance qui n'a jamais excédé une seconde 3, une seconde 4, on va dire, pour Rossi. Et il lui reprend un dixième à un dixième et demi par tour. Et à 4 tours et demi de l'arrivée.
Il craque. Et on peut rappeler une stat terrible pour Valentino Rossi. Ça fait 26 courses qu'il n'a plus gagné un Grand Prix.
Ouais.
C'est terrible, pour la légende de la moto.
Alors ça reste un formidable pilote à 39 ans, tu te rends compte, j'allais dire, pour les vieux comme nous, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils vont toujours aussi vite. Il est toujours en bataille pour la deuxième position au championnat du monde, même si ça devient difficile évidemment après ce zéro point.
Ouais.
Et il a toujours autant envie de piloter, et ça c'est formidable. Il aura 40 ans la saison prochaine. Normalement, il a signé pour 2 nouvelles saisons donc au sein de son équipe. Donc on devrait le retrouver non seulement en 2019 mais aussi en 2020. Écoute, Marquez, on y revient. Si on prend un tout petit peu de
juste
recul,
Jean-Luc, je crois que c'est terminé. Je suis en train de vérifier ça. Je crois que Dovizioso a assuré la deuxième place, tout simplement parce qu'il a 25 points d'avance.
Ah oui,
il a plus de nombre de victoires saison, puisque Rossi n'a plus gagné depuis un certain temps.
Oui.
Donc,
c'est fait.
Quoi qu'il arrive, Dovizioso va terminer deuxième derrière Marc Marquez.
Bon, ça reste un résultat formidable.
Oui, c'est une belle saison tout de même.
Avec une machine qui n'était pas au sommet de sa forme, on l'a vu, puisqu'il a fallu attendre le dernier Grand Prix à Phillip Island pour voir une victoire Yamaha.
Ouais.
Là aussi, ça remontait à 26 courses. Donc, Maverick Vinales s'était imposé avec la Yamaha lors du dernier Grand Prix, mais manifestement, la machine n'était pas au niveau. Et d'ailleurs, les pilotes officiels avaient un peu d'aigreur, j'allais dire, en pensant que finalement la machine de Johan Zarco, dans l'équipe Tech 3 privée de Poncharal, on va le rappeler, d'Hervé Poncharal, notre pote, il faisait aussi bien et elle était aussi efficace quasiment que les machines officielles.
D'ailleurs, c'est un titre honorifique, mais Johan Zarco qui, pour la deuxième année consécutive, termine meilleur pilote indépendant, donc pas un pilote d'usine.
Alors là, en revanche, si tu me permets, c'est peut-être pas terminé. Je crois qu'il a un point d'avance et il reste un Grand Prix.
Ah.
Alors Crutchlow
est
blessé et ne reviendra pas. Il a la jambe cassée, etc.
Voilà, donc normalement, il en est pas loin pour Johan.
Ouais. En tout cas, belle perf de Zarco si on y revient aussi. Enfin, je termine sur Marquez pour dire que effectivement, c'est un pilote encore une fois exceptionnel qui a pour moi un petit quelque chose en plus. La manière dont il s'est rattrapé. Je sais pas si tu l'as vu en début de course dans le gauche où il glissait. Il s'est rattrapé là aussi avec le genou, avec le coude. D'ailleurs, ça a entraîné la chute de Iannone derrière. Enfin bon, un Grand Prix formidable comme toujours à moto.
Et rendez-vous dans 15 jours à Valence.
Ouais.
Merci messieurs.